It's what I need. Holiness, holiness, it's what you want for me. Holiness, holiness, it's what I long for. Holiness, it's what I need. Holiness, holiness, it's what you want for me.
Righteousness, righteousness.
Righteousness, righteousness, it's what I long for.
Righteousness, it's
what I need. Righteousness, righteousness, it's what you want for me.
Faithfulness, tous ensemble.
Faithfulness, faithfulness, it's what I long for.
Faithfulness
is what I need. Faithfulness, faithfulness, it's what you want for me. Take my heart and form it. Take my mind, transform it. Take my will, conform it to love, to love, oh Lord.
To love,
to love, oh Lord. Take my heart and form it.
Hallelujah.
Transform it.
Take my will.
Conform it to you.
To you.
To you.
To you.
Transform it.
Take my will.
Conform it.
To you.
To
Tu nous as réunis ce matin en ces lieux pour que nous puissions élever nos voix vers toi. Que nous puissions exalter ton nom. Célébrer ton nom. Que nous puissions dire combien tu es bon pour chacun d'entre nous. Toi qui nous as donné la vie, le mouvement et l'être. Ce matin, nous sommes dans ta maison pour te célébrer. Éternel notre Dieu, merci de ce que tu es là à nos côtés. Tu ne nous abandonnes point. Tu ne nous délaisses point. Plusieurs sont venus ce matin avec des cœurs lourds en ces lieux. Mais c'est toi qui donnes les paroles de la vie. C'est toi qui console, c'est toi qui édifie. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons que tu nous instruises, que nous repartions de ces lieux avec quelque chose de nouveau qui aura construit notre foi pour que nous puissions affronter et relever les défis que l'ennemi place au devant de chacun de nous. Éternel notre Père, merci de ce qu'un jour, nous qui étions loin de toi, tu nous as attirés à toi. Tu nous as pris des ténèbres et tu nous as transportés dans ton royaume, le royaume des lumières. Oh, merci Jésus de t'être sacrifié à la croix pour nos péchés, pour nos iniquités. Merci Saint-Esprit d'avoir été envoyé comme le consolateur parmi ton peuple. Bénis ce temps, Seigneur notre Dieu. Bénis chacun de nous. Et bénis ta parole dans nos cœurs. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. En Jésus, nous te prions. Et nous disons tous, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, équipe de louanges. Vous pouvez regagner vos places. Vous pouvez saluer votre voisin de gauche, de droite, et lui souhaiter un bon dimanche. Tant que je ne suis pas venu ici, n'est-ce pas? Mais vous savez, vous êtes dans mon cœur. Et vous avez toujours été proche de nous. Que le Seigneur soit loué. Voilà, je voudrais, avant que nous ne puissions nous exhorter, aujourd'hui je ne vais pas courir après le temps parce que je n'irai pas à Mons. Donc si je vais rester ici jusqu'à 17h, je vais rester jusqu'à 17h. Quelqu'un peut dire Amen? Voilà, je ne vais pas courir après. Alors, je voudrais d'abord vous présenter les gens qui sont venus avec moi. Je suis venu avec deux de mes filles. Allons lire un texte que vous connaissez très bien. Mais je ne crois pas qu'il y ait un jour un texte que je lise ici que vous ne connaissez pas. Parce que c'est la même Bible, les mêmes écrits qui ne changent pas semaine après semaine. Donc, il n'y a aucun texte qui peut paraître nouveau. Actes des apôtres, nous allons lire le chapitre 12. Actes des apôtres, chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 1er. On va faire quand même une bonne lecture, même si je ne vais pas être très long. J'espère. Actes des apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1er, la Bible nous dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Je voudrais parler ce matin des trois portes que nous voyons dans cette histoire d'Actes chapitre 12. Regardez avec moi au verset 6e. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chiens, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Quand, vous pouvez bien souligner les mots porte du verset 6e. Quand nous arrivons au verset 10e, la Bible nous dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville. Ça, c'est la deuxième porte. Et la troisième porte, nous voyons cela au verset 13. Il frappa à la porte. Alléluia. Non, dites un bon amen. Voilà. Vous me connaissez, n'est-ce pas? Quand j'aime, quand la parole est prêchée, il faut des bons amen pour m'encourager. Oh, merci beaucoup, mes frères et sœurs de l'Éven. Je voudrais parler ce matin de ces trois portes. Vous savez, une porte, ça nous permet d'accéder à l'intérieur d'une maison. Mais les portes dont il est question ici, c'était des portes qui étaient au devant de Pierre et qui l'empêchaient d'accéder à quelque chose de bien. Alléluia. Mais je vais d'abord revenir au contexte de l'église. Quand nous sommes ici dans Actes chapitre 12, l'église vient de naître. Nous sommes au temps de l'église primitive. C'est le début de l'église. Les juifs ont connu la religion, ont connu les enseignements des scribes, des pharisiens, etc., etc. Mais Jésus est arrivé avec un autre évangile. Jésus est venu compléter, pas un autre, mais aller dans le même sens, mais compléter ce qui avait été annoncé par les prophètes. Vous savez qu'en ce moment-là, l'église qui était en train de naître était considérée comme une secte. Le diable savait que Jésus était venu apporter la vérité, était venu compléter, témoigner, attester ce qui avait été annoncé par les prophètes. Et donc le diable va se déchaîner contre cette église qui est en gestation, qui vient de naître. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir que la première personne au temps de cette église qui venait de naître, qui va être tuée, c'est Étienne. Quand nous lisons la Bible, on nous dit que c'était un homme de bien, un homme qui avait un bon témoignage, un homme rempli de Saint-Esprit, un homme au travers duquel des miracles étaient accomplis, il était puissant. Mais le diable veut décourager les personnes qui ont commencé à suivre la voie chrétienne. Comment pouvait-il s'y prendre, sinon que de commencer à s'attaquer à ceux qui étaient considérés comme des colonnes de l'église primitive? La première personne qui va donc mourir, c'est Étienne. On va les lapider. Alléluia. Comme si cela ne suffisait pas, Hérode, certainement inspiré par le diable, se dit, les Juifs ont aimé la mort d'Étienne, il faut que je continue dans la même lancée. Qu'est-ce qui se passe ici au chapitre 12e? La Bible nous dit qu'après la mort d'Étienne, Hérode va massacrer qui? Jacques, le frère de Jean. Jacques va être tué par l'épée. Quand nous lisons les écrits de Joseph, notamment un historien juif, il nous est dit que Jacques était un homme de prière puissant. On dit, il y a même des gens qui disent que lorsqu'on touchait ses genoux, c'était devenu dur comme les sabots d'un cheval tellement cet homme passait du temps dans la prière. Le diable va donc s'attaquer à une deuxième colonne de l'église, Jacques. Et comme si cela ne suffisait pas, le diable se dit, il y a une troisième colonne qu'il faut encore attaquer. C'est Pierre. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous voyez comment le diable peut travailler dans une église. Imaginez que dans notre église ici, moi, votre pasteur, je meurs. Et puis, un ancien, je vais prendre Didier parce qu'il n'aura pas, il n'a pas peur. Alléluia. Et puis le diable s'attaque et Didier meurt. Je crois que certaines personnes dans l'église risquent de quitter l'église en disant il y a quelque chose qui se passe dans cette église qui n'est pas tout à fait propre. Imaginons que après la mort de votre pasteur, après la mort du frère Didier, le frère Faustin, on l'arrête avec l'intention de faire un semblant de procès pour le massacrer. Je crois que même certains diacres ici vont renier leur titre de diacre. Je parle à quelqu'un? Parce qu'on sent la pression. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Les chrétiens de l'église primitive pouvaient se dire, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu là, Jésus, il a dit, il va nous protéger, il va nous sauver, il va faire ça, il va faire ci. Où est-il? Parce que là, nous sommes en train de voir que les diables s'attaquent aux colonnes de l'église. Les anciens, les diacres passent les uns après les autres. Mes frères et sœurs, là, ça devient dangereux. La plupart du temps, lorsque ce genre de situation nous arrive, nous sommes abattus, nous sommes découragés. Nous nous disons non. Peut-être que nous faisons fausse route. Peut-être que tout ce que le Seigneur a dit là n'est pas vrai. Mais malgré la souffrance, la peine, la douleur, il n'y a pas longtemps qu'Étienne venait de mourir, il n'y a pas longtemps que Jacques venait de mourir, massacré tous les deux, l'un lapidé, l'autre tué par l'épée. Il n'y a pas longtemps que Pierre venait d'être arrêté. Il y a un groupe de gens qui disent, si nous abandonnons de prier, d'où nous viendra la solution? À qui d'autre irions-nous? Ils étaient là, il y a des gens certainement qui pleuraient la mort d'Étienne. Il y a des gens certainement qui pleuraient encore la mort de Jacques. D'autres qui étaient désabusés par l'arrestation de Pierre, mais ils se sont dit, nous allons nous réunir pour prier. Je parle à quelqu'un. Vous savez, l'une des grandes stratégies de Satan, c'est de te décourager. C'est de multiplier un certain nombre de choses et de faits qui vont faire qu'il puisse saper ta foi et te faire croire que la confiance que tu as placée en Christ, en Jésus, c'est une histoire, c'est chimérique, c'est rien du tout. Pierre est arrêté. Ce groupe de gens va se réunir pour prier, mais c'était juste pour prier. Ils ne priaient pas véritablement pour voir quelque chose, mais ils priaient pour prier. Mais ils se sont dit quand même, nous allons prier. Vous savez, Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a des gens qui croient que Dieu ne va les exaucer que quand ils ont une foi, je ne sais pas de quelle taille ou de quelle dimension. La Bible dit qu'il est celui qui n'éteint pas les lumignons qui fument. Même si votre foi est devenue tellement petite, petite comme un grain de senevé, simplement cette décision que tu prends de dire au milieu de toutes les situations que tu traverses, de dire non Seigneur, je ne vais pas lâcher, je vais t'invoquer, même si mon cœur, même si la raison, même si les circonstances me disent que tout cela est vain, mais moi je me lève parce que je dois chercher ta face. Quand nous avons une telle foi, Dieu va agir. Ils vont se réunir. Regardez comment Hérode va multiplier les complications pour un individu qui venait d'être arrêté. Hérode va le prendre et va le placer dans une cellule. Vous savez, en prison, il y a aussi des cellules. Il va le placer dans une cellule. Et il va le lier des chaînes aux mains et aux pieds. Un individu simple. Quelque part, même les païens savent que quand on est chrétien, on n'est pas n'importe qui. Les démons le savent. C'est peut-être toi et moi qui ne réalisons pas véritablement qui nous sommes. Les démons tremblent quand ils ont affaire à un véritable chrétien. Ils savent que c'est un vrai. Et la plupart du temps, nous n'avons pas réalisé qui nous sommes, quand nous sommes vrais. Hérode se dit, cet homme, ça doit être un dangereux. Il va les lier des chaînes aux mains et aux pieds. Et puis, il va faire quoi? Il va prendre deux militaires. Il va les enchaîner, il va enchaîner Pierre à deux militaires et il va prendre deux autres devant à l'intérieur de la cellule. Quand vous sortiez de la cellule, il y avait la première garde, il y avait la deuxième garde, juste pour un individu. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur d'avoir connu Jésus. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Les démons savent qui tu es. Alléluia. Et donc, Hérode va affecter 16 militaires, 4 escouades de 4 militaires chacune, qui devaient faire le système de shift, se relayer de telle heure à telle heure. Les 4 qui étaient à l'intérieur de la cellule terminaient leur service. 2 autres venaient, on les enchaînait à Pierre, 2 restaient là-bas et la garde continuait. La Bible nous dit que Hérode l'avait arrêté dans l'intention, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Hérode avait déjà fixé la date où Pierre devait comparaître devant les Juifs et certainement être condamné et certainement être mis à mort. Quand l'homme écrit ton histoire, parfois il oublie à toi, véritable chrétien, que ce n'est pas lui le maître de ton histoire. Hérode avait l'intention de le faire comparaître, avait l'intention de le faire condamner et de le faire exécuter. Mais c'était sans compter avec le véritable maître de l'histoire, le Seigneur de gloire. Alléluia! À cause simplement qu'il y avait quelques personnes qui priaient, Dieu va envoyer un ange pour détricoter toutes les difficultés, réduire, simplifier, passer d'une équation complexe à une équation bicarée, d'une équation bicarée à une équation du second degré, d'une équation du second degré à une équation simple. Je parle à quelqu'un. Dieu va envoyer un ange. L'ange n'a pas besoin de passer par les gardes. L'ange n'a pas besoin qu'on ouvre les portes. L'ange s'est retrouvé dans la cellule où était Pierre. Alléluia! Mes frères et sœurs, on peut mettre des obstacles pour empêcher un homme de faire quelque chose, mais ces choses-là ne tiennent pas devant Dieu. Il est le Dieu qu'on ne peut pas limiter. L'ange entre maintenant dans la cellule. La lumière brille. Je parle à quelqu'un. La Bible nous dit que la lumière a brillé. Oh, j'aime beaucoup ça. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. La nuit qui précéda le jour. Mes frères et sœurs, ton Dieu est un Dieu même de la dernière minute, de la dernière heure. Alléluia. C'est pourquoi même quand tout va de travers, ne pense pas au suicide. Même quand tout va de travers, ne pense pas te jeter du haut d'un pont parce que ton Dieu est aussi le Dieu de la dernière minute. La Bible dit la nuit qui précéda. À quelques heures simplement. Vous savez, Dieu peut faire basculer, changer ta situation en quelques temps. Alléluia. Dieu peut changer ta condition en très peu de temps. Vous vous rappelez de l'histoire du siège de Samarie? Lorsque l'homme de Dieu, Élisée, s'est levé et a dit, demain à 7 heures, il y aura à manger pour tout le monde. L'officier a dit, même si Dieu pouvait faire des fenêtres au ciel, est-ce que pareille chose peut arriver? Parce que lui, d'après lui, les choses, non, c'était impossible. Mais Dieu est un Dieu capable de changer la condition d'une personne en un rien de temps. Alléluia. Il peut y avoir un tout à coup, un tout à coup. Ici, la Bible nous dit que l'ange survint tout à coup. Il n'y a pas eu de préavis, il n'y a pas eu de communication préalable pour dire « Je suis en train de venir ». Alléluia. Tout à coup, l'ange était là. La lumière a brillé. Ce qui m'étonne, c'est que Pierre continuait à dormir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je crois que Pierre était un peu découragé. Il y a de ces problèmes quand tu es dedans, hein, et que tu as l'occasion de dormir. Parce que parfois, quand on a certains problèmes, on a beaucoup de mal à dormir. Mais quand le sommeil te prend, c'est comme si tu récupérais tout le temps là où tu n'étais pas en mesure de dormir. Alors là, tu dors profondément. Je parle à quelqu'un. Et vous savez, il y a Pierre dormait tellement profondément. Peut-être qu'il était découragé, abattu. C'était un homme comme toi et moi. Il dormait profondément. L'ange entre, la lumière brille, mais Pierre continue à dormir. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses dans ta vie qui sont déjà là, mais toi tu ne les vois pas encore. L'ange était déjà là, la solution, le porteur de la solution était déjà là, mais Pierre ne le voyait pas encore parce que ses yeux étaient engourdis par le sommeil. Vous savez, quand nous avons beaucoup pleuré, les larmes qui coulent de nos yeux, parfois la solution est déjà là, mais nous ne le voyons pas encore, mais elle est déjà là, elle est déjà là. Alléluia! Alors l'ange va donner un petit coup de coude à Pierre pour le réveiller. Alléluia! L'ange lui donne un coup. Pierre lié de deux chaînes. Pourquoi deux? Ce n'était pas un castor. Ce n'était pas quelqu'un qui était armé. Mais comme je vous ai dit, c'est parce que simplement, Hérode se disait, savait que ce type-là n'était pas un type ordinaire. C'est pas un type ordinaire. Il peut y avoir quelque chose, un miracle, une puissance qui va permettre que cet homme, s'il n'est pas lié, s'en aille et s'échappe de la prison. Il faut bien le garder. Vous vous rappelez, lorsque le Seigneur a été mis au tombeau, les Juifs sont allés voir le souverain, Hérode pour lui dire, non, nous avons appris que il va ressusciter. Va, renforce la garde. Ils sont allés, ils ont scellé la pierre qu'on avait roulée. Ils ont renforcé la garde. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, les hommes avaient écrit une certaine histoire, mais Dieu allait écrire une autre histoire. La Bible nous dit que la terre a tremblé. Pourquoi? Vous savez, quand la terre tremble, il y a beaucoup de dégâts, mais ce tremblement de terre était ciblé juste pour déceler la pierre qu'on avait scellée à propos de Jésus. Alléluia! Et l'ange est venu, il a roulé la pierre et s'est assis dessus comme pour dire que celui qui est plus fort vienne m'enlever de la pierre et remettre la pierre là où elle était. Quand Dieu veut agir, à partir de ce moment-là, l'histoire qui a été écrite par l'homme va vivre le contraire de ce que Dieu a préparé. Alléluia! La lumière brille. Pierre continue à dormir. Et la Bible nous dit, voici un ange du Seigneur survint. J'aime beaucoup le verbe survenir, parce que ça veut dire venir à l'improviste. Oh, il y aura des moments pendant que tu pleures, Dieu viendra te visiter à l'improviste. Il n'y a pas là quelqu'un? C'est pourquoi ne te décourage jamais. L'ennemi peut multiplier toutes sortes de situations, de circonstances devant de toi. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, parce que ton Dieu peut venir te visiter à l'improviste. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'ange est venu. La lumière brilla dans la prison. Vous aurez remarqué qu'à partir du moment où l'ange est entré dans la prison, on ne parle plus des gardes. On ne parle plus des soldats. On nous a dit, Pierre était enchaîné avec des militaires, gardés par quatre soins, des quatre militaires chacune, etc., etc. Mais à partir du moment où Dieu intervient, On ne parle plus de l'histoire des gardes. On va parler de l'histoire de Pierre. Alléluia. Certains de tes ennemis, ceux qui te poursuivent aujourd'hui, on parlera de leur histoire ensemble avec toi pendant un certain temps. Quand l'intervention de Dieu viendra, on ne parlera plus d'eux. On va les oublier. On ne va plus parler que de ton histoire. L'histoire de tes ennemis aura pris fin quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? T'en fais pas. Pourquoi tu dois prier pour tes ennemis pour qu'ils meurent? Laisse-les vivre pour qu'ils voient comment Dieu, alléluia, comment Dieu va dresser, comment Dieu va dresser une table devant toi. Je parle à quelqu'un. Comment Dieu va t'élever, comment Dieu va te bénir, alléluia. Et vous savez, quand nous lisons la suite de l'histoire, ces gardes-là ont été fouettés. Oh, qu'est-ce qu'ils avaient fait sinon que d'avoir obéi aux ordres? Mais choisis bien ton camp. L'ange arrive. La lumière brille. Mais Pierre n'est pas réveillé. Et je me dis, vous voyez, on ne parle même plus des anges. Qu'est-ce que c'est? Les gardiens en ce moment-là ont vu. On ne parle même plus d'eux. C'est-à-dire, pour la Bible, pour le Saint-Esprit, pour Dieu, ça vaut même pas la peine de parler de ces gens-là. Et l'ange frappe Pierre au côté. Alléluia. Et il lui dit, mets ta ceinture, lève-toi promptement. J'aime beaucoup ces termes, lève-toi. Vous savez, il y a des moments où nous sommes abattus. Hein. Il faut que nous nous levions par la foi. Il y a un moment donné, quand tu vois, tu sens, tu sais que le Seigneur est à l'œuvre. Même si tu n'as pas encore vu totalement la solution, tu te lèves par la foi. Il dit, lève-toi promptement. Et quand Pierre s'élève, les chaînes tombèrent de ses mains. Regardez comment Dieu va commencer à simplifier l'équation. Ok? Les chaînes tombent des mains de Pierre. Les chaînes tombent. Et puis l'ange dit à Pierre, mets ta ceinture et tes sandales. Si j'avais le temps, je vous parlerais de tout ça. Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Ces trois choses sont fondamentales, mais je ne suis pas venu vous parler de ça. Les sandales, la ceinture et le manteau. Un jour, je reviendrai pour ça. Alléluia. Pierre met les sandales, Pierre met la ceinture, Pierre met le manteau. Et l'ange lui dit, suis-moi. Là, nous sommes dans la cellule. Il y a la porte de la cellule. Quelqu'un me suit? Nous ne sommes pas encore à l'intérieur de la prison. Non, nous sommes dans la cellule, la première porte. L'ange arrive, les chaînes tombent, la lumière brille. Je ne sais pas, je vous le répète, je ne sais pas ce qui était devenu les gardes qui étaient enchaînés à Pierre. Je ne sais pas, la Bible n'en parle pas. C'est-à-dire, la Bible trouve que ça ne vaut pas la peine de parler de ça. Un jour, on dira de tes ennemis, ça vaut pas la peine de parler d'eux. Ils sont dans les oubliettes. Alléluia! Ils sont dans les oubliettes. C'est de ton histoire maintenant qu'on va parler. Et l'ange dit à Pierre, suis-moi. Pierre ne pose pas de questions à l'ange. Pierre ne dit pas, mais comment nous allons sortir de cette première porte? Rien du tout. Pierre commence à suivre simplement l'ange qui lui dit, suis-moi. La première porte qui t'empêche d'accéder à une forme de liberté de bénédiction va s'ouvrir par ta foi et par l'obéissance. Tu n'as pas de questions à poser à Dieu. Tu n'as pas besoin de comprendre. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de comprendre comment les choses vont se passer. Dieu te demande simplement de croire. Les problèmes sont multiples, les chaînes sont là, les gardes sont là, la porte est fermée. Alléluia! Tu ne vois pas d'où peut venir la solution, mais quand Dieu te dit « lève-toi », tu te lèves sans poser de questions. Quand Dieu te dit « suis-moi », tu le suis sans poser de questions. Et quand tu te trouveras devant la première porte, beaucoup de gens dans leur vie n'accèdent pas à leur bénédiction à cause de ces deux choses. La foi et l'obéissance. Suis-moi. Il ne dit pas comment la porte va s'ouvrir. Non, rien du tout. Il marche après l'ange. Je parle à quelqu'un. La foi, c'est de croire. C'est comme ça que Élisée a dit à l'officier sur la main duquel le roi s'appuyait au temps du siège de Samarie, lui a dit, tu verras de tes yeux. Hein? Mais comme tu n'as pas cru dans la parole qui est venue de l'Éternel, tu verras ce que je dis, mais tu n'en mangeras point. Vous savez, quand on n'a pas la foi, on peut s'exclure de certaines bénédictions. C'est pourquoi il faut faire très attention aux paroles qui sortent de ta bouche. L'officier a dit, oh non, 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 une chose comme ça. Il croyait que Dieu était capable de fabriquer des fenêtres au ciel, mais il ne croyait pas que le même Dieu soit capable de donner à manger à tout le monde après une longue période de sécheresse. Alors il dit, non, pareille chose arrivera-t-elle. En fait, il n'a pas posé une question, il a proclamé son incrédulité et son doute. Alors on lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Vous savez ce qui s'est passé? Les lépreux sont entrés dans les camps des Syriens. Et ils ont trouvé qu'il y avait à manger pour tout le monde. Croire dans ce que Dieu dit, je ne comprends pas, c'est irrationnel, ce n'est pas logique, ce n'est pas cartésien, alléluia! Ça n'a rien à voir avec ce que je sais de 1 plus 1 égale 2. Je crois simplement parce que Dieu m'a dit. Alléluia. Alors, le Seigneur me dit une chose et j'obéis. Je crois dans ce qu'il me dit et je vois la porte, la première porte s'ouvrir parce que je marche par la foi et par l'obéissance. Le chrétien ne marche pas par la vue. Si tu commences à marcher par la vue, le diable te fera tout le temps voir les complications, les difficultés, les combats, les problèmes. Et tu te diras, comment est-ce que je pourrais sortir de là? C'est pas possible, qui peut venir me secourir? Toutes sortes de choses. Remarquez, ces jours-là, les chrétiens étaient simplement en train de prier. Alléluia! Ce que eux ne pouvaient pas faire, Dieu a fait en envoyant son ange dans la cellule où était gardé Pierre. Première porte. Elle souffrira dans ta vie si tu marches dans la foi et dans l'obéissance. Si tu es rebelle, tu peux te dire que des portes, tu te trouveras devant ces portes, elles se fermeront devant toi parce que tu ne vis pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que tu ne crois pas dans la grandeur d'un Dieu tout-puissant capable de changer ta condition en très peu de temps. Je ne suis pas chrétien juste pour vivre l'ordinaire. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus pour vivre l'ordinaire. Parce que les païens vivent parfois de plus grandes choses que nous. Mais ce que je veux vivre, c'est l'extraordinaire de Dieu. Et si je suis devenu chrétien, c'est parce que j'ai mis ma foi dans le Dieu de l'extraordinaire. Je m'attends à ce que des choses extraordinaires se passent. Je m'attends à ce que des choses qui sortent de l'ordinaire se passent. Et quand je reçois une promesse de la part de Dieu, même si tout semble indiquer le contraire, je sais que mon Dieu agira. Alléluia! Je sais que la porte s'ouvrira et je crois dans les promesses de Dieu et je crois dans la parole de Dieu et je crois dans ce que Dieu me dit et j'obéis. Pourquoi en matière d'argent, nous ne sommes pas tellement bénis, nous là, dans les milieux francophones? Je viens du Canada, de l'église du pasteur Fauvi. J'ai passé 3 semaines. Nous sommes allés jusqu'à Boston, dans une église d'un frère là, congolais, africain. Et aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les jours d'appréciation. C'est le jour où l'église dit à son pasteur, nous apprécions le travail que tu fais parmi nous. Pendant toute une année, nous apprécions. Dieu lui-même a apprécié l'œuvre qu'il accomplissait. Quand il regardait, il disait, ah, ça c'est bien. Quand il a créé quelque chose, il regardait, il dit, ça c'est bien. Dieu sait apprécier. La plupart du temps, nous ne savons même pas apprécier les gens que Dieu nous a donnés. Et un jour par an, les fidèles viennent avec toutes sortes de cadeaux, des enveloppes, toutes sortes de choses pour donner à l'homme de Dieu parce qu'ils disent, nous apprécions le travail que tu fais parmi nous. En matière de dîmes, mais parce que la parole le dit, apportez la dîme, toutes les dîmes dans la maison du trésor. Mes frères et sœurs, l'obéissance ce n'est pas simplement de dire, moi je ne fais pas de la fornication, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dans les milieux francophones, nous sommes là en train de marchander et voir les petits billets, la petite pièce que nous pouvons donner, quand nous pouvons faire mieux. Et s'il y avait deux retours, où est le deuxième? Il y avait un deux retours comme ça, ici. Frère Didier, où est l'autre? Il faut l'acheter. Dites amen. Amen. Et qui doit l'acheter? C'est l'église. Tu es dans l'église et tu regardes. Tu dis non, il y a quelque chose que je peux faire. Tu n'as pas besoin qu'on vienne dire, voilà, appel d'offres et tout. Non! Dieu t'a placé ici pour que tu sois béni et que tu bénisses l'œuvre qu'il accomplit au milieu de nous. Alléluia! L'obéissance, mes frères et sœurs, dans les dîmes, dans la marche quotidienne, quand des portes sont fermées devant toi, mais que toi tu marches dans l'obéissance, même quand les hommes ne peuvent rien faire pour toi, à cause de la prière que tu vas faire, ou de l'intercession de ton pasteur, ou de l'intercession de tes frères et sœurs. C'est pourquoi c'est important que nous puissions apprendre à prier pour les autres. Je vous dis qu'il y a un grand secret dans l'intercession. Je prie très peu pour moi-même. Je prie beaucoup pour les autres. Job a prié, pas pour lui. Avant que Dieu ne le bénisse au double de ce qu'il avait perdu, il a prié pour ses amis. Est-ce que vous avez déjà lu ce texte dans la Bible? Quand nous prions pour les autres, Dieu se souvient de nous également. Et c'est ça l'amour. La Bible dit que nous devons porter nos fardeaux les uns les autres. Beaucoup de chrétiens sont égoïstes. Quand ils se mettent à prier, c'est Seigneur, papier, séjour, mari, enfant, oh Dieu, visite-moi, tout le temps. Apprends aussi le secret de commencer à porter les fardeaux pour quelqu'un. Et tu sens ce fardeau dans ton cœur comme s'il s'agissait de toi. C'est comme ça que Moïse disait à Dieu, Seigneur, tu veux exterminer ce peuple, alors tue-moi. Efface mon nom dans ton livre. Alléluia. Avant que tu l'aies. C'est ça l'intercession, c'est se mettre entre Dieu et une personne que Dieu veut frapper. Et une personne que Dieu doit bénir. Et à cause de ta bonne relation avec Dieu, quand toi tu parles à Dieu, Dieu bénit la personne qui est après toi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Combien de temps tu passes dans la prière pour les autres? Pour les autres? Pour ton pasteur? Combien de temps? Où tu prends un jour de jeûne, deux jours de jeûne, et tu dis non! Je vais porter ce fardeau devant le Seigneur. La première porte s'ouvre. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia! La Bible dit, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. En fait, dans d'autres versions, on dit, Pierre s'imaginait rêver. Pierre s'imaginait qu'il était dans un rêve. Vous savez, quand vous avez connu des problèmes et des problèmes et des problèmes, vous-même, vous vous dites, dans votre fort intérieur, je ne sais pas comment je vais m'en sortir de là. Quand parfois la solution commence à venir, tu crois rêver. La Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Il y a des choses, des jours, des choses arriveront dans ta vie, tu te dis, est-ce que je suis en train de rêver ou pas? Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité, parce que Dieu est en action. L'action des hommes a précédé, mais l'action de Dieu vient détruire tous les projets qui ont été élaborés par les hommes pour que Dieu montre qu'il est le Dieu souverain, au-dessus des rois, au-dessus des soldats, au-dessus des geôliers, au-dessus de toutes les autorités. Alléluia! Je crois que Dieu a permis qu'Hérode multiplie les complications pour qu'il montre quand il va intervenir que ce n'est pas Hérode qui règne, mais c'est notre Dieu qui règne. C'est l'Éternel des armées qui règne. C'est l'Éternel des armées qui règne. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit, Pierre se disait, mais c'est un rêve. Je crois que je rêve. Et puis, j'ai passé de temps. Lorsqu'ils eurent, verset 10e, passé la première garde, puis la seconde, vous comprenez ça? Et ces gardiens en ce moment-là, qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient là pour garder Pierre. Pas pour que Pierre ou quelque autre prisonnier que ce soit sorte de la prison. Ce jour-là, s'il y avait un prisonnier qui, par hasard, était dans le couloir, en dehors de sa cellule, si j'étais à sa place, je profiterais. Vrai ou faux? Ah oui, mais vous savez, vous connaissez l'histoire. Quand Paul et Silas étaient en prison à Philippe, mais eux aussi, les portes se sont ouvertes, d'autres prisonniers ont profité, mais eux, ils sont restés d'abord pour prêcher l'évangile. Alléluia! Vous savez, quand Dieu te bénit, il peut y avoir des bénédictions collatérales. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire même des gens qui n'étaient pas véritablement concernés par la chose peuvent. Tout comme il y a des bénédictions réservées. Quand Dieu vient pour toi spécialement, même s'il y a des gens qui sont autour de toi, ils ne verront pas la lumière que toi tu vois, ils n'entendront pas la voix que toi tu entends, parce que cette bénédiction est une bénédiction réservée rien que pour toi. Quand l'ange est arrivé, ils n'ont pas vu la lumière. Ce n'est pas eux que l'ange est allé réveiller avec un petit coup de coude. C'était réservé à Pierre. Vous savez, il y a des moments, mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes que même au milieu d'une multitude, tu peux être l'exception de Dieu. Alors les autres vont te dire, nous avons été là, on a échoué, nous avons fait ça, on a échoué, mais toi tu pars avec la foi, te disant que ce n'est pas parce que les autres ont échoué que je vais échouer. Je peux être l'exception de Dieu, je peux être celui à qui l'ange va donner un petit coup de coude pour me dire, viens et suis-moi, parce que je ne suis venu prendre que toi. Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas chrétien pour rien. Maintenant, les gardes, ils sont là. Peut-être qu'ils dormaient. Quand Jésus est ressuscité, la Bible nous dit que les gardes étaient comme... Vous voyez, les gens qui ont télévision digitale, quand tu mets la touche pause. Vous avez déjà vu la touche pause? Je crois que Dieu avait posé. Alléluia, alléluia, alléluia. Le verbe n'existe peut-être pas, mais vous savez, je fais du néologisme. Donc Dieu avait posé. Et ceux qui sont là pour te combattre un jour, Dieu les posera. Ceux qui sont là pour t'empêcher d'accéder à ta liberté, Dieu les... Attends. Yamboula. Alléluia. Il passe la première garde. Il passe la deuxième garde. Maintenant, il se dirige vers la porte de la prison. Vous voyez la porte là. Je ne sais pas si vous avez vu dans les images la porte de la prison de Forêt. C'est énorme. C'est lourd. C'est-à-dire, c'était la porte la plus difficile à ouvrir. Il n'y a pas là quelqu'un? Quand ils arrivent là, écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il y a un grand secret dans ce verset. La porte la plus difficile à ouvrir, la plus lourde, l'énorme porte de fer. Pierre est en train de marcher avec l'envoyé de Dieu. Il parle à quelqu'un. Quand ils arrivent devant cette porte, Pierre ne dit pas un mot. L'ange ne dit pas un mot. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? La porte s'ouvre d'elle-même. Pour céder le passage à Pierre et à l'ange. La Bible dit la porte s'ouvrit devant eux. Mon frère, ma soeur, quand tu marches avec l'envoyé de Dieu, quand tu marches dans l'esprit et selon l'esprit, je parle à quelqu'un, la deuxième porte de ta vie, la deuxième porte qui t'empêche d'accéder à un espace de liberté, la deuxième porte qui te bloque quelque part dans une prison, s'ouvrira d'elle-même. Lorsque tu te laisses remplir par l'esprit, que tu marches par l'esprit, que tu marches avec celui que Dieu a dit, je vous enverrai le consolateur. Tu ne marches plus seul, mais tu marches par l'esprit, tu marches avec l'esprit, tu marches avec Dieu lui-même. Et parle à quelqu'un. Amen. Écoutez ce que le psalmiste dit dans le psaume 68. Il dit ceci. Psaume 68, à partir du verset 8e. Psaume 68, à partir du verset 8e. Il dit, « Oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans les déserts, la terre trembla, les cieux se fendirent devant Dieu. » Le Sinaï s'ébranla devant. Vous voyez les mots devant, devant, devant. Exactement les mêmes termes que celui qui est utilisé en acte 12. C'est un ange qui est là. L'envoyé de Dieu. Quand Christ est parti, il a dit quoi? Je vous enverrai le Consolateur. Beaucoup de chrétiens marchent dans la chair. Je parle à quelqu'un? Ils marchent selon la chair. Ils marchent en compagnie des moqueurs. Oh, moi je préfère la compagnie du Dieu Tout-Puissant. Je préfère de marcher avec l'Éternel des armées. Quand il sort au devant de son peuple, même le Sinaï va s'ébranler. Même les eaux de la mer Rouge vont se couper. Même les eaux du Jourdain vont se fendre en deux pour laisser le passage à celui qui marche avec l'Éternel des armées. Avec qui tu marches? Et comment tu marches? Des portes de fer s'ouvriront devant toi. Des choses compliquées vont s'ouvrir. Non pas parce que forcément tu jeûnes beaucoup. Dites amen. Amen. Non pas forcément parce que tu pries beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui marchent dans la chair. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui marchent selon les trains de ce monde. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui marchent selon la vaine manière de vivre héritée de leur père. Quand nous marchons avec Dieu, la Bible dit 2 ans peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Quand tu es en accord, en harmonie avec Dieu, quand tu marches dans l'esprit et selon l'esprit, il y a des choses qui se dégageront de ton passage, non pas parce que forcément tu pries beaucoup. C'est là d'ailleurs que beaucoup de gens se trompent en disant « Oui, mais si Dieu veut me bénir, de toute façon il me bénira, je peux ne pas prier. » Non, c'est pas ça, ce n'est pas du tout ça. Il y a des choses qui vont se présenter devant toi sans que tu aies à souffrir énormément dans les jeûnes ou dans la prière, simplement parce que dans ta marche quotidienne, tu marches avec le Seigneur. Tu marches par la puissance du Saint-Esprit. Tu marches selon l'Esprit de Dieu. Je parle à quelqu'un. Alors, il faut que tu saches, que tu te poses la question de savoir qui marche avec toi au devant des difficultés. Qu'est-ce que David a fait devant Goliath? Il a marché en son nom? Non. Il dit, je marche au devant de toi au nom de l'Éternel, c'est-à-dire avec lui, avec le mandat de lui. Et quand on marche avec le mandat de Dieu, avec l'envoyé de Dieu, avec Dieu lui-même, les montagnes vont s'aplanir, les eaux vont se couper, les portes des prisons vont s'ouvrir d'elles-mêmes pour céder le passage. Je te prie, ma sœur, ça sert à rien d'être chrétien, de jongler, de tricher, montrer aux gens une belle face à l'église, mais dans la vie de tous les jours, tu marches dans la chair. Ça te profite à quoi? Marche selon la parole de Dieu et tu verras ce que Dieu dit s'accomplir. Alléluia. La Bible donc dit, oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans les déserts, la terre trembla, les cieux s'effondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, les dieux d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Il y a un pays préparé pour toi, il y a une bénédiction préparée pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand tu marches avec le Seigneur, tu peux être malheureux. Il aura préparé un héritage pour toi. Parce que tu marches avec lui. C'est comme ça que la porte, la plus lourde, la grande porte va s'ouvrir d'elle-même. Et, si c'était des portes comme au temps d'aujourd'hui, il aurait fallu que quelqu'un là-bas, dans la salle des commandes, appuie sur un bouton, pour que ça s'ouvre. Vrai ou faux? Aujourd'hui, les portes s'ouvrent comme ça. Mais comment voulez-vous que quelqu'un appuie parce que eux-mêmes ils étaient comme morts? Non, mais ils étaient en pause. Donc la porte devait s'ouvrir d'elle-même. Dieu est tout puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas pour agir le concours ou le soutien d'un homme. Il n'a pas besoin de ça. La deuxième porte s'ouvre. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Écoutez. Après la sortie de la porte de prison, l'ange a dit à Pierre, Pierre, bye bye. Alléluia. Pierre se retrouve maintenant seul. Mais Pierre sait que s'il est dans la rue, on peut très rapidement le reprendre. Il peut mourir de froid, il peut mourir de faim. D'ailleurs, il est tout bouleversé. Il doit savoir où aller. Pierre ne sait pas que les disciples étaient réunis pour prier en sa faveur. Pierre commence à réfléchir. Où dois-je aller? Chez qui je dois aller? La Bible ne le dit pas, mais je suis presque certain que l'Esprit l'a convaincu d'aller dans la maison de Marie. Pourquoi? Pour que par sa présence là-bas, les gens qui priaient juste un peu pour prier, comprennent que leur prière était puissante. Je parle à quelqu'un. Dieu ne permettra jamais que tu pries, que tu pries, que tu pries sans résultat. Il y a des choses qui viendront pour que tu comprennes que tu ne pries pas en vain. Quand ces choses arriveront, ça va fortifier ta foi pour relever le plus grand défi. Alléluia. C'est pourquoi même quand tu ne vois rien aujourd'hui, tu continues à prier parce que tu sais que tes prières ont un effet. Tôt ou tard, les portes s'ouvriront, les chaînes tomberont, tes ennemis seront en pause. Je parle à quelqu'un. Alors la Bible nous dit quoi? Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine. Avant, il ne voyait pas, il ne croyait pas. Nous sommes comme ça. Que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Tout ce que le peuple juif attendait, c'est-à-dire sa mort. Il y a des gens qui attendront ta mort indéfiniment. Jusqu'au jour où Dieu décidera de ta mort. Pas eux. Alléluia. Il y a des gens qui attendent ton échec, mais Dieu va te donner le succès, la réussite, pour contredire leur pronostic. Alléluia. Leurs projets ne se réaliseront pas au nom de Jésus. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Je vais vous dire une chose. Après avoir franchi la deuxième porte, Pierre est dans la rue, il réfléchit. L'Esprit lui dit, va dans la maison de Marie. Parce que c'est là que les gens sont en train de prier. Vous voyez pourquoi la Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand ta maison est une maison de prière, Dieu enverra la bénédiction dans ta maison. Quand ta maison est une maison de coups, d'insultes, de guerres permanentes, toi, entre toi et ton mari, Dieu n'enverra pas la bénédiction chez toi. Nos maisons doivent être des lieux de paix, des lieux de joie, des maisons de prière. Avec ton mari, ça va tellement bien que quand dans la ville, alléluia, un ange ou la bénédiction cherche où aller, Dieu lui dit, va chez les mamies, alléluia. Et la bénédiction vient dans ta maison. C'est comme ça que nous recevons parfois certaines choses auxquelles nous ne nous attendions même pas. C'est à cause du fait que nous avons fait de nos maisons des lieux de paix, des lieux de joie, des lieux de prière. Alléluia. Alléluia. Quand la veuve de Sarepta recevait l'homme de Dieu, il dit, ah oui, j'ai reconnu dans cet homme un serviteur de Dieu. On va faire pour lui une chambre, n'est-ce pas? Vous voyez, la bénédiction était entrée dans la maison de cette femme parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et l'homme de Dieu lui a dit, madame, c'est pas grave, l'année prochaine, à cette même époque, la bénédiction était rentrée. Pierre arrive là-bas. Avant que je ne continue, je voudrais vous dire une chose. Quand ils sortent dans la rue, l'ange dit à Pierre, bye bye. Mais Pierre avait besoin d'entrer, de franchir la troisième porte. La porte de la maison de Marie, parce qu'il ne devait pas rester dans la rue. Mais l'ange le quitte. Comme pour dire, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu va le faire. Mais ce que toi, homme, tu peux faire, ne prie pas pour que Dieu le fasse. Je parle à quelqu'un. Tu dois le faire toi-même. L'ange dit à Pierre, c'est terminé, j'ai fini mon boulot. parce que la porte de la cellule, parce que la porte de la prison était le seul qu'aucun homme n'était en mesure d'ouvrir. Je suis envoyé par le Dieu souverain. J'ai démontré la souveraineté de mon Dieu. Maintenant, j'ai fait ma part. Puis à toi, il te reste plus qu'à toi de faire ta part. Voilà quelqu'un. Des gens, ils sont là, ils prient. Ah oui, je prie, j'aurai un boulot. Écoute, tu pries, mais tu introduis des demandes de, comment on dit, des CV. Tu cherches le job. Je parle à quelqu'un. Tu entreprends. Alléluia. Tu entreprends. Alléluia. Il n'y a pas de succès sans risque. Même sur le plan scientifique. Même sur le plan des affaires, il y a un risque à prendre, mais tu dis, le Seigneur fera sa part. Là où il y aura les difficultés les plus insurmontables, il me permettra de les surmonter. Mais ce que moi je peux faire, je le fais par moi-même. Alléluia. Pierre part maintenant tout seul, parce que c'est sa part. Il arrive devant la porte de Marie, il frappe. Il y a une servante rôde qui vient, qui ouvre un peu. Elle voit qui? Elle voit Pierre. Au lieu d'ouvrir. Vous savez, quand la joie est au rendez-vous, il y a des choses qu'on oublie de faire. Au lieu d'ouvrir, elle court dire à ceux qui priaient. Pierre est devant la porte. Les autres lui disent, mais tu es folle ou quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait là? Il priait pourquoi? Pour qu'il y ait un miracle en faveur de Pierre. Mais le miracle est là. Vous savez, l'homme, quand nous cherchons certains miracles là, alléluia, il faut avoir même la foi de les accepter. Et puis Pierre est là, devant la porte. Vous savez, je suis presque certain que cette dame s'est d'abord rassurée que c'était Pierre. Mais elle connaissait la voix de Pierre. Vous savez, même à minuit dans l'obscurité la plus totale, si je parle, quelqu'un qui a déjà été en contact avec moi dira, là c'est le bishop Robert. Vrai ou faux? Amen. La dame a reconnu la voix. Dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Ah, franchement. La pauvre dame est traitée de folle. Alors qu'ils étaient en train de prier pour qu'un miracle se produise en faveur de Pierre, lequel Pierre était devant la porte. La dame dit non, je ne suis pas folle. Moi, j'ai reconnu sa voix. Elle affirma. Dans certaines versions, on dit elle n'en démordit point. Elle affirmait avec assurance que c'était Pierre. Alléluia. Et lui dire, tu as vu son ange. Parce que dans leur tradition, un ange a la même voix que la personne qu'il protège. A la même physionomie. Donc, si je dis, l'ange de mes refrains, elle est comme mes refrains. On dit, tu as vu son ange. Ou son fantôme. C'est le même terme. Ça ne peut pas être Pierre. Oh, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas toujours réalisé la grandeur de Dieu. Vous savez, nous prions comme pour prier. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te demande d'abord, parce que tu me dis, mais maître, monsieur, tu n'as ni corde, ni cruche, comment peux-tu me donner de l'eau? Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais qui est le Dieu qui est en face de toi, le Dieu que tu pries, tu ne douterais pas qu'il ouvre le ciel. Tu ne douterais pas qu'il donne à manger à tout le monde en période d'inflation. Tu ne douterais pas qu'il agisse dans ta situation si tu comprenais la grandeur et la puissance de Dieu. Tu ne vivrais pas tout le temps dans les soucis, dans les inquiétudes. Parce que tu sais, nous chantons, il agira, c'est pour chanter. Quand je vois les gens chanter ça, je dis, est-ce qu'ils réalisent? Les gens lui disent, ça ne peut pas être lui, c'est son fantôme. C'est son ange. Écoutez, cependant, Pierre continuait à frapper. Vous voyez, regardez.
Quand la dame est venue, elle a entendu Pierre, elle a vu le visage de Pierre, elle est rentrée. Elle a commencé à discuter avec le groupe de gens qui priaient. Pendant tout ce temps, qu'est-ce que Pierre faisait? Pendant ce temps, il y avait une discussion là-bas. Est-ce que quelqu'un voit les scénarios? La troisième porte de ta vie va s'ouvrir par la persévérance. Je parle à quelqu'un? Par la persévérance. Si les hommes étaient en train de discuter, crois-moi, pour que les démons lâchent ta bénédiction, ils discutent encore plus ferme. Quand tu te mets à prier là, ça chauffe. Les démons qui tiennent ta bénédiction, il y en a qui disent à l'autre, là ça chauffe trop. Moi, je ne peux plus. L'autre dit, allez, persévère, tiens bon. Je parle à quelqu'un. Si les hommes discutent pour ouvrir à l'un d'entre eux la porte, à combien plus forte raison vous pouvez vous imaginer que les démons discutent pour que toi tu reçoives ta bénédiction? Ça a été le cas de Daniel. Vous comprenez ce que je veux dire? Depuis le premier jour, il avait à cœur de prier. Dieu avait béni. Qu'est-ce qui s'est fait? Les démons, le prince, le roi de Perse a dit, cette bénédiction ne passera pas ici. Voyez, la peur de l'homme, c'est la persévérance. Pendant ce temps, Pierre tambourine. Et il discute. Pierre continue à frapper. Pierre continue à frapper. Ah, je crois qu'il avait même peur. Il jetait des petits coups d'œil par-ci, par-là. Se disant, est-ce qu'on n'a pas déposé? Posé? Déposé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous qui parlez très bien le français, excusez-moi d'utiliser des termes, mais c'est entre guillemets. Donc il avait des petits coups d'œil par-ci, par-là pour se dire, est-ce que ces gens ne se sont pas réveillés? Mais on peut m'attraper ici. Mais regardez mes frères et sœurs, la porte qui semblait la plus facile à ouvrir devient la porte la plus difficile à ouvrir. Voyez pourquoi parfois nous échouons dans certaines choses. Nous disons ça c'est facile. Ça c'est facile. Mais c'est parfois dans les choses les plus faciles qu'il y a une plus grande résistance, une plus grande opposition. C'est pourquoi même quand vous êtes fiancé, vous savez que la date du mariage est déjà fixée. Ce n'est pas une garantie que le mariage aura lieu. Continuez à prier jusqu'à ce que, alléluia, on vous impose les mains par le pasteur. C'est en ce moment-là que tu peux crier victoire. La porte la plus facile, celle qui devait s'ouvrir, je dirais, presque d'elle-même, et celle qui résiste le plus maintenant au coup de Pierre. La persévérance. La persévérance dans la vie chrétienne. Vous voyez pourquoi Élie, quand il prie sur le mont Carmel pour que la pluie tombe, après 3 ans et demi de sécheresse, il dit à son serviteur, va voir du côté de la mer. Il va voir. Il dit, je ne vois rien. 2 fois, je ne vois rien. 3 fois, je ne vois rien. 4 fois, je ne vois rien. Toi et moi, on va faire quoi? On va dire, c'est peut-être pas le jour. C'est peut-être pas maintenant. Mais il persévère. 7e fois. J'aime beaucoup le chiffre 7. Élisée dit à Naaman, va plonger dans l'eau 7 fois. Je crois que Didier a prêché sur Naaman le dimanche passé. Alléluia. 7 fois. Pourquoi il lui dit ça? Vous savez, 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est-à-dire jusqu'à ce que. Et puis, quand on plonge 7 fois, tout ton corps est trempé, immergé. Le fait d'être un pied dedans, un pied dehors, tu peux rentrer avec ta lèpre. Il faut être tout dans la foi, tout dans la parole, tout en Jésus-Christ. Alléluia! Et Pierre tambourine, Pierre frappe, Pierre frappe. Enfin, la discussion s'achève. On dit, mais cette femme peut ne pas être folle. Allons voir! Enfin. Voyez, Dieu avait fait sa part dans la porte de la cellule. Dieu avait fait sa part dans la porte de la prison. Devant la porte de la cellule, devant la porte de la prison, mais devant la porte de la maison de Marie. Vous savez, je veux aussi vous dire une chose. C'est parfois devant nos propres membres de famille que nous aurons beaucoup de difficultés à accéder à leur cœur. À toucher leur cœur. Quand tu vas leur parler de Jésus, non, ils te regardent, ils disent, ouf, mais nous connaissons, c'est le fils de Marie. On connaît ses frères et ses sœurs. Toi là, tu as grandi, tu faisais pipi au lit. Mais je ne suis plus cet homme-là, je suis maintenant racheté. Enfant de Dieu, guerrier de l'Éternel, serviteur de Dieu. C'est parfait devant les membres de nos familles qui nous auront plus de difficultés à faire passer l'Évangile. Mais il faut faire quoi? Il faut persévérer. Pierre tambourine. Et puis ces gens se disent, allons quand même voir. C'est pour eux que ce soit Pierre. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? C'est son nom. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent. Ah, j'aime ça. Et furent étonnés de le voir. Ils furent étonnés. Ils priaient pourquoi? Alléluia. C'est, quelque part, ils priaient sans vraiment croire. Vous comprenez ça? Mais Dieu est bon. Parfois, Dieu, dans notre incrédulité, il trie. Dieu enlève là. Il prend juste cette petite foi-là. Ils sont étonnés. Mais ils sont étonnés parce que Dieu a fait des choses qui étonnent. Ton Dieu est un Dieu qui fait des choses étonnantes. Il t'étonnera même toi-même un jour. Il étonnera les membres de ta famille un jour. Au travers de toi, de ce qu'il aura accompli dans ta vie. C'est pourquoi même si on vient de tuer Étienne, on vient de tuer Jacques, on a arrêté Pierre, mais tu continues à croire en ce Dieu-là. Tu dis à Satan, tu ne me décourageras pas. C'est ça que tu veux que je me décourage, mais moi je ne vais pas me décourager parce que je connais le don de Dieu. Alors ils ouvrent Pierre, alléluia, et tout d'un coup tout le monde veut vraiment l'accueillir avec joie. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils peuvent même tomber en syncope, tellement la bénédiction est là. Quelqu'un peut tomber comme ça, c'est pas vrai. Tout le monde crie, il dit, chut. Il les fait taire pour raconter son histoire. L'histoire d'une délivrance miraculeuse à travers trois portes. Tout le monde est frappé par son enseignement. Ces groupes de gens qui priaient malgré eux, qui priaient avec un peu de désespoir, tout d'un coup, au travers de cette histoire, ils reçoivent la révélation, la confirmation, la certitude que le Dieu dans lequel ils ont placé leur confiance est le véritable Dieu. Ils écoutent l'histoire de Pierre. Ils disent non. Si Étienne est mort, si Jacques a été tué, qu'importe, c'était peut-être leur temps. Nous louons le Seigneur, mais nous avons compris maintenant quel est Dieu que nous servons, est le véritable Dieu. Pierre raconte son histoire. Pierre raconte. Vous pouvez vous imaginer comment ces gens étaient édifiés ce jour-là. Et pourquoi je voudrais te dire, je vais terminer par là. Au lieu de raconter n'importe quoi aux gens, fais-les taire pour leur raconter ton histoire. Je parle à quelqu'un? Dis-leur, chut! Et commence à leur dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Commence à dire comment Dieu a ouvert la première porte. Commence à dire comment Dieu a ouvert la deuxième porte. Commence à dire comment les chaînes sont tombées de tes mains. Commence à leur dire comment les fers sont tombés de tes pieds. Commence à leur dire comment les anges sont restés comme morts. Les gardiens sont restés comme morts. Commence à leur dire les hauts faits de ton Dieu quand il marchait au devant de toi et que la porte de fer s'était ouverte d'elle-même. Et ton témoignage fera que les gens qui étaient abattus, les gens qui étaient désespérés, retrouvent courage et continuent à espérer en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes dans la prière? Est-ce que nous pouvons courber nos têtes dans la prière? Alléluia. Peut-être qu'il y a eu une multiplication de complications dans ta vie. Pour ces pauvres pierres, des chaînes, des gardiens, des gardes, des portes en fer. Hérode avait déjà l'intention de le faire massacrer. Le verdict était déjà arrêté. Et c'est sans compter avec le Dieu Tout-Puissant. Et ce Dieu-là, c'est ton Père. Ce Dieu-là, il est celui qui écrit ta véritable histoire.
Ce que les hommes ont projeté n'aura pas lieu si lui, il en a décidé autrement. Je voudrais te dire qu'il a décidé, il en a décidé autrement, car ce n'est pas la volonté des méchants, des sorciers, des démons qui doit s'accomplir dans ta vie, mais le projet de Dieu, car il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. L'ennemi s'est déchaîné contre l'église, pour détruire l'église. L'ennemi se déchaînera aussi contre toi, pour saper ta foi, se déchaînera contre cette église, la Nouvelle Jérusalem de Leuven. Des choses arriveront et ceux qui sont faibles dans la foi diront toutes sortes de choses. Mais toi, oh mon Dieu, mon frère, ma sœur, toi qui as entendu cette parole ce matin, le Seigneur veut te dire, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Les portes, les trois portes derrière lesquelles tu te trouves s'ouvriront. Dieu fera sa part et tu feras ta part et tu seras au cœur de la maison de Marie. Où t'attendent tes bien-aimés, où t'attendent des gens qui auront besoin de ton histoire pour être encouragés, où t'attendent des gens qui ont besoin de ton histoire pour être édifiés, et Dieu veut se servir de toi pour que tu sois la source d'édification au travers de ton histoire, de la manière dont Dieu t'a béni, de la manière dont Dieu t'a élevé, de la manière dont Dieu t'a sauvé de la mort, de la manière dont Dieu t'a arraché des griffes, des puissances, des ténèbres. Raconte-leur ton histoire. Je voudrais prier pour tous ceux qui ont l'impression d'être derrière des portes qui sont fermées. Que toutes ces personnes se lèvent. Je voudrais prier pour toutes les personnes qui ont l'impression que des complications s'ajoutent aux complications dans leur vie. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Levez-vous si vous vous retrouvez dans cette situation. Je voudrais prier pour des gens qui ont l'impression que des chaînes sont attachées à leurs mains, à leurs pieds, pour qu'ils n'aillent pas loin. Pour qu'il reste entre quatre murs dans un espace réduit. Aujourd'hui, nous voulons briser ces chaînes pour que tu élargisses l'espace de ta tente. Pour que tu élargisses l'espace de ta tente. Pour que tu serres tes cordages et que tu te répandes au septentrion et au midi, à l'Orient et à l'Occident pour la gloire de ton Dieu. Je voudrais prier pour des personnes qui ont l'impression que les hommes, les méchants, les sorciers, les tentes, ont écrit une histoire malheureuse contre eux pour leur vie. Je voudrais qu'aujourd'hui ils se lèvent parce que le Seigneur veut écrire une nouvelle page en leur faveur. Oui, la page de la délivrance. Oui, la page de la bénédiction. Oui, de l'élévation. Oui, du succès. Parce qu'il est le Dieu qui contredit nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains.
Yahweh,
répands ton cœur devant le Seigneur. Chantons ce chant. Chantons,
Yahweh,
chantons.
Yahweh salalolengenayu. Yahweh. Oh Yahweh salalolengenayu. Oh mususa zalite Yesu. Oh Yahweh, oh tobeleli o Masia, oh Yahweh, salalulengina.
Chante ce chant de tout ton cœur, c'est ta prière. Dis à Dieu, agis. Agis, que les portes s'ouvrent, que les chaînes tombent, que les gardes soient comme morts, que tu me conduises vers les lieux où l'on a besoin de moi, où on a besoin de mon témoignage, où on a besoin de mon histoire, de mon histoire.
Oh, mon sous-soisalite, Yesué. Oh Yahweh, salalolenge.